du Mali.
Studio Damani, voici nos informations en français.
Bonjour et bienvenue dans ce journal du 17 novembre 2016, la titre. L'organisation britannique Conflict Armaments Research vient de publier son rapport sur les transferts d'armes dans le Sahel. Dans cette étude, l'ONG a établi une cartographie des flux d'armement dans la région. Selon le rapport, la prolifération des stocks d'armes de l'armée de Kadhafi a renforcé les groupes armés du nord du Mali. Toutefois, il ressort de cette étude que le trafic des armes en provenance de Libye a fortement diminué. COP 22, après deux jours de négociations, aucune information officielle n'a filtré des débats. Toutefois, certains observateurs élèvent de fortes divergences en matière de mécanismes de financement. Recrudescence des attaques contre les populations dans la région de Mopti. Le chef du village de Wouroualaï, Témé, a été tué mardi par des hommes armés. C'est le troisième assassinat de chef de village dans cette partie du pays. Fatmata Togola à la présentation. Information de dernière minute, le mouvement djihadiste Ansardine affirme avoir tué trois combattants du Gatia à Tizawaten dans la région de Kidal selon RFI. Ces affrontements ont eu lieu mardi dernier. Par ailleurs, le gouvernement a nommé hier un président de la Commission nationale des armements, de mobilisation et réinsertion. Il s'agit de l'ancien ministre de la Réconciliation nationale Zahabi Ould Sidi Mohamed. Comme je vous l'avais dit dans les titres, l'organisation britannique Conflict Armaments Research vient de publier son rapport sur les transferts d'armes dans le Sahel. L'ONG a travaillé dans une dizaine de pays dans le Mali pour établir une cartographie des flux d'armement dans la région. Sekou Gadjogo.
La guerre en Libye a amplifié les transferts d'armes, notamment à travers un grand nombre de combattants Touareg, jadis recrutés au sein des armées de Kadhafi. Les résultats présentés confirment que la prolifération des stocks d'armes de l'ère du dirigeant libyen a renforcé les Touareg ainsi que les insurrections islamistes au Mali. Ils ont permis à des acteurs armés opérant dans toute la région d'acquérir de l'armement. Bien qu'il soit difficile de confirmer cela de manière quantitative, le rapport laisse penser que les saisies massives effectuées pendant les crises de 2012 et 2014 ont été pour les groupes armés maliens des vecteurs d'approvisionnement d'armes illicites, plus importants que les vols post-crise, les ventes ou les transferts en contrebande. Ainsi, les mouvements armés ont utilisé une proportion croissante d'armes lourdes obtenues à partir des stocks du gouvernement, privilégiant le matériel récupéré localement à celui acheminé à partir de sources libyennes ou étrangères.
Selon Claudio Gramisi, un des conseillers de l'organisation, le trafic des armes en provenance de Libye a fortement diminué. La raison tient non seulement de la demande en baisse, mais aussi à cause de la surveillance accrue de la force Barkhane. Il estime que les routes de trafic traditionnelles sont de moins en moins utilisés. Claudio Gramisi est au micro de nos confrères de RFI.
Il y a encore certainement du trafic qui s'opère à partir de Libye. Cependant, la tendance générale des premiers mois qui ont suivi la chute du régime Kadhafi, où on assistait vraiment à un écoulement systématique des stocks à partir donc de l'ancienne armée libyenne, de l'ancienne armée de Kadhafi, ont certainement ralenti d'un côté, et puis de l'autre, effectivement, il y a une demande croissante au niveau libyen lui-même, étant donné que l'apparition de beaucoup de conflits intercommunautaires ont créé effectivement un besoin local, ce qui fait que lorsque des stocks sont rendus disponibles, effectivement, les trafiquants libyens ont plutôt tendance à écouler ça de manière locale ou à les utiliser directement. Très certainement, à partir du moment où la surveillance de ces espaces s'est accrue, notamment avec bien entendu l'engagement de l'armée française et le déclenchement d'opération Barkhane, je dirais les routes de trafic traditionnelles sont devenues moins exploitées. Si on pense au Mali, par exemple, deux tiers des attaques à la roquette lors des 18 derniers mois ont été surtout effectuées avec de l'armement qui sortait des stocks de l'État malien lui-même.
Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani. Dans la région de Mopti, la population est de plus en plus la cible d'attaques. Les chefs de village sont particulièrement visés. Celui de Wouroualaï Témé a été tué mardi par des hommes armés. Cet assassinat intervient après celui des chefs des villages de Dogon, Ayouarou et Djaba Adjéné. Arkia Touré.
L'insécurité persiste dans la région de Mopti. Le chef de village de Wouro El-Lay Temé dans le cercle de Douanzan a été assassiné dans la nuit de lundi à mardi. Le meurtre a été commis par des hommes armés non identifiés. Suite à des menaces, la victime avait quitté son village pendant plus de 4 mois. Le chef de village a été tué 3 jours après son retour. Selon des sources locales, il a été ciblé à cause de sa proximité avec les autorités maliennes. D'autres affirment que c'est un règlement de compte. Le gouverneur de la région de Mopti affirme que les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur place pour constater les faits. Selon lui, des enquêtes vont être ouvertes par la gendarmerie pour déterminer les raisons de ces drames. Courant 2015, le fils de la victime avait été également tué dans les mêmes conditions par des individus encore non identifiés. Ces assassinats ciblés se multiplient dans la région de Mopti. Il y a quelques mois, 2 autres chefs des villages de Dogo et de Djaba respectivement dans les cercles de Youarou et Djenné ont également été exécutés. Aucune suite judiciaire n'a encore été donnée à ces violences.
Un individu a été abattu hier par des hommes armés à moto à Kirena, localité située à 40 km de Douanzan. Selon le commandant de la brigade de gendarmerie de Douanzan, la victime était le directeur de campagne du maire de la commune de Kirena. Les assassins, qui étaient au nombre de 6, n'ont toujours pas été retrouvés. La rencontre de haut niveau sur le climat, débutée ce mardi en présence des chefs d'État, s'est poursuivie toute la journée d'hier à Marrakech. Pas de compte-rendu officiel après la première journée d'échange. Les débats restent confidentiels, mais les observateurs élèvent de fortes divergences en matière de mécanismes de financement. Le point avec Mohamed Touré.
Rien ne filtre pour le moment de ces 2 premiers jours de négociation. Les chefs d'État défendent successivement leurs documents de contribution déterminée nationale finalisés au cours de la semaine dernière qui résument leurs engagements et leurs stratégies pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Selon des sources au niveau du groupe africain, les points de blocage essentiels résident dans les mécanismes financiers et l'accès au fonds vert. Les pays les moins avancés demandent que le financement des projets d'atténuation et d'adaptation soit priorisé en fonction de leur vulnérabilité aux effets du changement climatique. En clair, certains pays devraient être prioritaires sur d'autres. Se pose alors la contrainte de pouvoir démontrer pour chaque pays que les préjudices subis sont les conséquences directes du réchauffement. Sur ce point, les mécanismes juridiques et d'analyse technique n'existent pas encore. Pour maintenir une forme de pression, le continent africain a organisé la journée Afrique au sein de la zone bleue de la COP réservée aux négociateurs. Rencontrée au pavillon africain, la ministre française de l'Environnement Ségolène Royal espère des avancées concrètes.
Alors cette journée sert à mettre tout le monde d'accord, tout le monde ensemble, à faire le point sur les financements existants. Ces financements sont mis en place, puisqu'à la fois les financements que la France avait promis sont mis en place, les fonds sont versés, et donc l'unité mise auprès de la Banque africaine de développement peut fonctionner. Ça c'est une très bonne chose. Il faut que les entreprises soient présentes, elles le sont. Il faut que les fonds bilatéraux soient présents, ils le sont. Il y a une liste de projets qui a été faite et maintenant il appartient aux Africains de choisir leur projet. Donc les choses sont en très bonne voie et moi je suis très content de voir ces résultats.
Les résultats des négociations sont attendus cet après-midi. Mohamedou Touré depuis Marrakech pour Studio Tamani.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait été victime d'un malaise vaguel hier, a participé à la rencontre de haut niveau sur le climat en présence d'autres chefs d'État. Dans une interview accordée à nos confrères de l'ORTM, Ibeka rassure sur son état de santé.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Une rencontre sur la commercialisation des produits céréaliers et maraîchers a débuté hier à Koutiala. Selon ses organisateurs, la rencontre va permettre de sensibiliser les participants sur la planification de la commercialisation de la production céréalière et maraîchère. Cette session de 9 jours est financée par l'ONG Ferejara. Une session sur la validation du programme d'appui au développement a débuté hier à Onsongo. Il s'agit d'un projet de 5 ans qui concerne la santé, le domaine de l'hydraulique, de l'élevage et de l'agriculture. Les communes qui ont bénéficié de ce projet sont Tinama, Tessit et Talatay. Un projet de curage de caniveaux a été lancé mardi à Gao d'un montant de 150 millions de francs CFA. Les travaux vont durer 6 mois. Ce programme va permettre de lutter contre l'insalubrité et d'améliorer les conditions de vie. Il est financé par la MINUSMA. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine.